Vox Populi.
En ce début 2007, deux nouveaux pays, la Roumanie et la Bulgarie, sont entrés dans l'Union européenne. Et dorénavant, la porte de l'UE semble bel et bien fermée pour un temps. La Croatie ne devrait pas entrer avant 2009 ou 2010. Les autres pays des Balkans savent qu'ils devront attendre encore plus. Quant à la Turquie, cible de l'opposition la plus franche des citoyens européens, ses négociations d'adhésion ont été suspendues partiellement, alors qu'elles étaient déjà prévues pour durer au moins 10 ou 15 ans. À cheval entre Europe et Asie, membre de l'OTAN, laïque mais à population majoritairement musulmane, voisin de l'Irak et l'Iran, ce pays pourrait être appelé à calmer les tensions entre l'Occident et le monde musulman, comme l'a souhaité Benoît XVI lors de son récent voyage. Mais la Turquie, avec ses 70 millions d'habitants, des partis politiques musulmans et nationalistes potentiellement puissants, et surtout des violations persistantes des droits de l'homme, fait peur à beaucoup. Il y a un mois à Istanbul, je rencontrais Bernard Granjon, cofondateur et président d'honneur de Médecins du Monde. Son association travaille en Turquie sur le dossier des prisons et des Kurdes, deux dossiers toujours délicats dans ce pays.
Médecins du Monde a pour devise soigner et témoigner. Donc nous sommes une association médicale, indiscutablement, mais une association qui témoigne et qui témoigne en faveur des droits de l'homme. Ce ne sont pas deux choses séparées. Nous pensons qu'il n'y a pas de santé possible au sens large du terme dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Or, malgré les progrès récemment enregistrés, la Turquie est encore un pays dans lequel il y a beaucoup à faire en matière de droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est non seulement l'accès à la santé, mais c'est également le respect des communautés et la reconnaissance de leur particularisme, en particulier culturel, ce qui n'est pas fait pour les principales minorités, en particulier pour la minorité, entre guillemets, kurde, hein, qui fait quand même en Turquie 15 millions d'habitants à peu près au minimum, hein, on ne sait même pas combien il y en a puisqu'ils n'existent pas. La reconnaissance de leur culture, de leur langue, de leur manière de vivre, d'une part, et d'autre part, les droits de l'homme qui sont bafoués en Turquie. Il nous a semblé que dans cette mission, le dénominateur commun, le fil d'Ariane, pouvait être la justice et les prisons. Alors nous assistons à des procès depuis déjà plusieurs années et nous nous intéressons aux prisons. Nous ne pouvons pas, dans l'état actuel des choses, entrer dans les prisons, mais nous pouvons en tous les cas, et tout à fait librement, je dois le dire, interviewer, examiner, expertiser des gens qui viennent de sortir de prison. Et tout particulièrement après de longues peines, ce qui est ici une évidence et malheureusement une chose extrêmement répandue, et après ce qu'ils appellent le régime d'isolement. Le régime d'isolement qui est un petit peu l'équivalent des quartiers hauts de sécurité tels qu'ils existaient en France il n'y a pas très longtemps encore, et qui se double dans le cas particulier de la Turquie d'une torture quasiment systématique dans de tels régimes. Parce que le régime d'isolement, c'est pas forcément d'abord une cellule individuelle, c'est souvent des cellules à deux ou à trois, mais c'est surtout l'impossibilité de communiquer. Impossibilité de communiquer lors des promenades, impossibilité de communiquer avec les autres détenus, impossibilité ou difficulté de communiquer avec l'avocat, avec la famille, de recevoir des informations du monde extérieur. C'est donc progressivement une espèce d'isolement sensoriel qui aboutit à la destruction de l'individu. D'autant qu'il faut savoir que chez les prisonniers que nous voyons, qui sont surtout des prisonniers politiques, d'opinion, souvent extrêmement militants, le côté collectif est une façon pour eux de supporter, et le militantisme est la justification finalement de leur action et permet d'arriver à maîtriser leur souffrance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont isolés, justement, pour essayer de casser ce militantisme. Et non seulement on ne casse pas ce militantisme, mais on casse souvent les individus. Et c'est ce que nous voulons essayer, justement, de démontrer après toute une série d'expertises sur les conséquences neurologiques et les séquelles neurologiques définitives des grèves de la faim. Nous le faisons maintenant, nous commençons à le faire en ce qui concerne les séquelles psychologiques.
Dans ces prisonniers longue peine, isolés, vous parlez de militants souvent, militants de tous bords, militants politiques, des Kurdes pour le coup aussi, je suppose.
Alors militants de tous bords, exactement, c'est-à-dire grosso modo des Kurdes qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits et la reconnaissance de leur culture, plus encore. Hein. Vous savez que les Kurdes sont partagés entre 4 ou 5 pays, 5 pays si on compte l'URSS. La Turquie est le seul pays où on laisse un Kurde accéder à un poste de ministre, un poste de médecin, d'avocat, enfin, à la seule condition qu'il oublie justement son particularisme culturel. Alors que dans les autres pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran, les Kurdes sont reconnus comme Kurdes et massacrés comme Kurdes. Et c'est pas un hasard si justement le seul pays qui a donné lieu à un mouvement qu'on peut appeler terroriste, hein, même si il faudrait nuancer ce genre d'appréciation, enfin en tous les cas un mouvement violent, un mouvement qui a eu des conséquences dramatiques sur la population civile, y compris kurde, le seul pays, c'est la Turquie. C'est-à-dire que finalement, la pire chose dont on puisse priver quelqu'un, c'est de sa référence culturelle. Donc il y a des Kurdes qui luttent pour la reconnaissance de cette référence culturelle, et puis il y a des mouvements d'extrême gauche que nous voyons également, et qui luttent alors pour l'avènement de plus de justice, avec des idéaux quelquefois un petit peu mythiques, il faut le reconnaître, mais enfin, en tous les cas, qui tournent toujours autour du respect de l'individu. Et c'est là où on revient aux droits de l'homme, et qu'on revient finalement à notre ligne de fuite, qui rejoint de très près la santé. Donc nous ne sommes pas incohérents du tout. Je crois, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas y avoir de santé dans un pays où il n'y a pas de droits de l'homme, et il ne peut pas y avoir de santé dans un pays où il n'y a pas une certaine justice.
Ces Kurdes, donc, qui sont toujours en lutte avec, en tout cas, certains mouvements, notamment le PKK, en lutte avec le gouvernement, ce qui donne encore des affrontements. Et il ne se passe pas une semaine, je dirais, pas un jour parfois, mais les médias n'en parlent plus, sans qu'il y ait des morts, des affrontements, des personnes arrêtées. Ce qui pousse une certaine partie de la population à fuir ces régions et à finir, entre guillemets, dans des villes importantes comme Ankara, mais surtout Istanbul. Et on retrouve ces Kurdes ici, je suppose, dans des situations très précaires, sans droits et dans des situations économiques aussi un peu difficiles. Ce sont ces populations-là, je crois, qu'un programme de Médecins du Monde approche et essaye d'aider médicalement aussi, et puis peut-être aussi pour la défense des droits de l'homme.
Il y a à Istanbul entre 3 et 5 millions à peu près de Kurdes qui sont là, pour beaucoup d'ailleurs, en regardant par la fenêtre, c'est-à-dire du côté de la Grèce et du côté de l'Europe, donc avec l'intention de partir. De plus en plus, la Turquie en général, et Istanbul en particulier, deviennent une plaque tournante pour l'immigration.
Est-ce que ces populations kurdes sont solidaires entre elles, par exemple ici à Istanbul ?
Solidarité entre les Kurdes, je dirais que ce soit en Turquie ou ailleurs, il y a peu de solidarité. Ce qui d'ailleurs fait leur faiblesse, c'est qu'ils ont, dans l'histoire, ils n'ont jamais été capables de s'unir. Ils gardent une mentalité clanique. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une solidarité entre les différentes populations kurdes d'Istanbul, qui sont encore une fois population très nombreuse.
Comment une association comme Médecins du Monde, qui défend des Kurdes, peut travailler sans avoir de problème ?
Soyons clairs, nous venons en Turquie depuis 15 ans à peu près. Nous avons commencé à traverser la Turquie uniquement pour accéder au Kurdistan d'Irak, où nous avons travaillé 20 ans ou plus de 20 ans. Et je peux vous dire que ça se passait pas facilement, et qu'à l'évidence c'était une société extrêmement policée dans laquelle le moindre document compromettant risquait de vous faire mettre dehors. Ce que nous faisons actuellement eût été impensable il y a simplement 10 ans, ou probablement moins de 10 ans. Donc une société et un gouvernement, un système, qui évolue vers une plus grande permissivité. À quoi est-elle due ? Il n'y a qu'une seule réponse. Elle est due à son désir, maintes fois exprimé, d'entrer dans l'Europe. Et je crois que ce désir, nous devons de le prendre en compte. Quand je dis le prendre en compte, ça ne veut pas dire y accéder demain. Et ça, il faut être clair. Vous me demandez l'entrée demain, je dis non. Pour une raison très, très nette, pour moi, et principale, c'est la non-observance des droits de l'homme. Question mieux posée, est-ce que l'Europe doit continuer vis-à-vis de la Turquie son processus qui aboutira peut-être un jour à... Ma réponse est oui, 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 100 fois oui. Pour la Turquie, mais aussi pour l'Europe.